Une bouffée d'oxygène jusqu'à la fin du mois de septembre. L'État débloque la troisième tranche du PGE. Cela représente 13 milliards de francs pour la Nouvelle-Calédonie. Toute la flotte d'Air Calin de nouveau opérationnelle. L'un des Airbus A330 est en vol pour Paris. Le second est réparé. Un avion affrété par la compagnie devrait arriver en fin de semaine. Les responsables d'Air Calin auditionnés au Congrès de la Nouvelle-Calédonie devant les élus réunis en commission plénière. Auparavant, c'est le gouvernement qui a été entendu. Une enquête est en cours à Païta. Samedi dernier, un groupe de personnes armées aurait décidé d'appréhender et de punir un jeune soupçonné de vol. Et puis le sport et le golf avec la deuxième journée du South Pacific Junior Open sur le parcours de Tina. À l'issue des deux premiers tours, c'est Jules Guépy qui est en tête chez les messieurs. L'Australienne Anna Thomas domine chez les dames. Bonsoir, bienvenue dans ce journal. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur tous les fronts. Il était cet après-midi devant la commission plénière du Congrès pour informer les élus de la situation budgétaire et financière du territoire. Nous y reviendrons dans un instant. Auparavant, il tenait ce matin sa séance hebdomadaire. À l'issue de cette séance, le président du gouvernement, Milakulo Tukumuli, a fait plusieurs annonces et notamment celle du déblocage par l'État de 13 milliards pacifiques pour la Nouvelle-Calédonie. Elisabeth Noir.
Ce sont les fameux 13 milliards qu'il fallait trouver avant la fin du mois, faute de quoi, avait déclaré le président du gouvernement, la Nouvelle-Calédonie aurait été en cessation de paiement, elle aurait frôlé le shutdown. Depuis cette déclaration, il y a eu plusieurs entretiens avec la mission interministérielle, son directeur Amaury de Clude s'est entretenu avec le Premier ministre, et c'est le haut-commissaire Jacques Billon qui a annoncé la bonne nouvelle ce matin aux membres du gouvernement. L'État accepte de verser à la Nouvelle-Calédonie les 13 milliards du PGE, le prêt garanti par l'État, et cela sans contrepartie, souligne le président du gouvernement.
Le haut-commissaire nous a collectivement annoncé que le troisième versement du PGE, à hauteur de 115 millions d'euros, a été accepté de la part de l'État, sans condition, et que ce troisième versement sera versé entre le 28 et le 31 août prochain. Donc on va rester dans les clous, ce qui nous permettra de passer le cap du mois de septembre. Le gouvernement conduira et a mis en place une délégation dite transpartisane, c'est une délégation calédonienne composée des membres du Congrès et du gouvernement, mais accompagnée aussi des parlementaires, qui se rendra à Paris du 1er au 5 septembre prochain, afin de sensibiliser sur la situation calédonienne, toujours post-émeute 2024.
On a donc trouvé les 13 milliards et ils vont permettre de combler les trous dans le budget de la Calédonie et dans ceux des collectivités. Ils vont servir également pour le roi, mais pour les retraites. Mais dès octobre, il y aura besoin d'une nouvelle décision. Et cette fois-ci, le gouvernement national demandera sans doute des contreparties à la Nouvelle-Calédonie en termes de réforme. C'est de tout cela que doit parler la mission transpartisane qui a des rendez-vous au plus haut sommet de l'État, avec le Premier ministre, la ministre des Outre-mer, le ministre des Finances, mais aussi les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Le président du gouvernement, Milakulo Tukumuli, a également annoncé ce matin que le gouvernement avait fléché les 50 millions du dispositif de retour à l'emploi pour financer le chômage, qui est lui aussi en grande difficulté.
Nous avons fléché ce matin les 500 millions qui étaient destinés au dispositif de retour à l'emploi, qui avait été imaginé mais qui n'a pas pris, vers le dispositif de chômage où le besoin s'en fait ressentir. Suite au COTEC hebdomadaire qui a lieu entre les institutions calédoniennes et la CAFAT. Donc cet argent des 500 millions a été refléché ce matin sur le chômage, avec probablement une queue de cerise sur le dispositif allocation de maintien à l'emploi, qui lui s'est arrêté au 31 juillet. La prorogation du dispositif est aujourd'hui sur le bureau du Congrès, au travers du loi de pays.
Et puis Milakulo Tukumuli a également annoncé que le gouvernement avait arrêté la délégation de politique générale qui sera prononcée par le président lundi prochain, le 24 août à 14h. Ils ont aussi validé à l'unanimité la représentation dans les organisations extérieures.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui était cet après-midi devant la commission plénière du Congrès pour informer les élus de la situation budgétaire et financière du territoire. Un exercice de pédagogie et de transparence qui a été apprécié par les élus du Congrès. Ils en retiennent qu'il faut impérativement lancer des réformes, Elisabeth.
Exercice de pédagogie pour les membres du gouvernement qui sont venus exposer la situation financière et budgétaire contrainte de la Nouvelle-Calédonie. On en connaît les grandes lignes et le membre du gouvernement en charge du budget et des finances a répété devant les élus que le budget 2026 avait été construit avec une aide exceptionnelle de l'État de l'ordre de 50 milliards pour compenser les pertes de recettes fiscales dues à mai 2024. Mais l'État a posé des conditions pour que la Calédonie s'engage pour combler les déficits structurels du Roam et des retraites. Philippe Blaise a fait un point de situation après l'annonce du déblocage par l'État des 13 milliards du PGE.
Sur ce qui nous devait encore, c'est-à-dire 27 milliards sur les 44, l'État va donner la moitié à peu près d'ici la fin du mois. Et on remercie le commissaire parce qu'il est intervenu pour défendre notre cas. Ça va nous donner de l'air, on va dire jusqu'en septembre. Bon, après, je pense que l'État va nous demander quelques engagements sur le long terme pour verser le reliquat. Mais ça, je dirais, c'est un problème un peu artificiel. C'est pas le fond du problème. Le vrai fond du problème pour les Calédoniens, c'est quand est-ce qu'on va sortir de ce trou d'air de 50 milliards. Et ça, il n'y a qu'une solution, c'est la relance économique. Il faut recréer des emplois, il faut qu'on ait des cotisants, paye des impôts. Il faut qu'on ait des entreprises qui gagnent de l'argent, qui paient des impôts. Et puis comment on résout les problèmes de ces déficits qui s'aggravent d'année en année sur le RUAM et sur les retraites ?
Le problème des retraites, c'est qu'il n'y a pas assez de cotisants, mais des réformes sont déjà engagées, souligne Philippe Blaise, pour qui le gros problème, c'est celui de la centaine de milliards de dépenses de santé du RUAM, pour lequel on manque, dit-il, de visibilité.
Sans remettre en question la qualité du service public en Calédonie, sans remettre en question le nombre de médecins et le service qui est rendu aux Calédoniens, il faut qu'on se pose la question de est-ce qu'on peut aller chercher quelques pourcents d'économie en regardant ce qui est vital, ce qui ne l'est pas. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est pas un travail où on vient avec des idées toutes faites. Parce que c'est là que sont les marges de manœuvre qui vont nous permettre de moins avoir de déficit et de rassurer l'État sur la capacité à ramener la Calédonie vers une gestion qui est plus saine.
Soit l'État nous aide, soit on trouve des pistes d'économie locale, relève le membre du gouvernement en charge des finances. Il reconnaît qu'il sera difficile de construire le budget 2027 et que cela dépendra de l'effort consenti par la France pour aider la Nouvelle-Calédonie. Mais dit-il, il y a une absolue nécessité de mener les réformes. Un exercice de pédagogie et de transparence, on le disait, la présidente du Congrès, Virginie Rufnacht, souligne ce qu'elle a retenu de cet exercice.
On a vraiment une chute très brutale de l'emploi à partir de 2024, à la fois des recettes fiscales qui s'effondrent, qui déjà étaient un peu en fragilité avant 2024 avec la situation des référendums un peu complexe, mais vraiment 2024 c'est la chute libre. C'est la chute des recettes fiscales, c'est la chute de l'emploi. Et on a conscience qu'au-delà des aides de l'État, il faut maintenant vraiment recréer une situation de confiance pour que l'emploi redémarre. Et puis également diminuer les dépenses, notamment en matière de santé. C'est un travail qu'on va devoir faire. On devra travailler sur les retraites du privé, qui nécessitent des moyens pour être pérennisés, mais aussi des réformes indispensables. C'est tout ça qui a été évoqué avec beaucoup de précision et de transparence par le gouvernement de la Calédonie. Je crois que c'est un effort qui a été salué par les élus pour vraiment féliciter ce travail intense qui a été mené aujourd'hui.
Le gouvernement s'exprimait devant une commission plénière, c'est-à-dire l'ensemble des élus du Congrès réunis à huis clos, et ils étaient très largement présents. Le commentaire de Naya Watteau pour le groupe Les Loyalistes. Cet exercice pour elle mérite d'être clair et de bien poser le problème.
Ce qui m'a semblé important, au-delà des chiffres qui sont conséquents bien évidemment, mais c'est de rappeler qu'avant mai 2024, oui, la Nouvelle-Calédonie était en difficulté et il était nécessaire qu'elle puisse engager de grandes réformes. Mai 2024 lui a enlevé toute possibilité de pouvoir gérer seule ses mesures structurelles. Et finalement, ce que l'on voit, c'est qu'en 2026, le gouvernement et l'ensemble des forces politiques se sont attachés à maintenir une situation tant bien que mal à l'équilibre, à sauvegarder l'équilibre en Nouvelle-Calédonie, mais finalement à minima. Et puis surtout, on est en capacité de le faire parce que l'État accompagne la Nouvelle-Calédonie.
Pour Jordan Courteau, le chef du groupe Rassemblement, c'était un exercice de transparence appréciable de la part du gouvernement. Mais maintenant, dit-il, on est tous au pied du mur.
Je remercie le gouvernement encore une fois pour ce gros travail qui a été mené pour nous mettre aussi, nous les élus, tous face à nos responsabilités. On est un peu tous au pied du mur, soit les élus, mais les collectivités, mais aussi les Calédoniens. Et on va devoir faire preuve de beaucoup de résilience, encore une fois, et être capable de porter les réformes qui s'imposent afin de sauver un petit peu notre territoire qui est en extrême difficulté financière, c'est un secret pour personne.
Une transparence appréciée également par Pierre-Chanel Toutougourou pour le groupe UC-FLNKS. Il estime que le travail va maintenant être à la charge de la mission transpartisane à son retour de Paris.
On a besoin qu'on puisse construire des débats par la suite au retour de la mission dite transpartisane de France pour pouvoir ensemble trouver les voies et les moyens, les textes qu'il faut créer, les réformes qu'il faut engager pour consolider les choses et puis projeter dans une période un peu plus longue. Voilà, parce que là, on est surtout dans une situation d'urgence, c'est ce qu'on a bien compris.
Une situation d'urgence, effectivement, et pour Valentine Rissouquet, chef du groupe UNI, il est impératif maintenant de faire des réformes.
Le Congrès aujourd'hui a insisté, puisqu'il y a eu les prêts qui avaient été auparavant débloqués par l'État, mais au même titre que les subventions. La contrepartie, c'était quand même qu'ici, au niveau de la Nouvelle-Calédonie, les réformes de fonds soient mises en place pour éviter qu'on passe notre temps à tendre la main vers l'État français pour boucher les financements de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est surtout ça le travail important qu'il nous reste à faire au retour de la délégation. Donc le financement qu'ils ramèneront permettra d'assainir la situation. Mais en même temps, pour la suite, il faudra faire les réformes.
Les élus du Congrès sont maintenant parfaitement informés de la situation financière et budgétaire de la Nouvelle-Calédonie. La question essentielle, on l'a bien compris, c'est celle de la relance économique pour sortir la Nouvelle-Calédonie de cette situation. Et puis, il va également forcément falloir engager les réformes. Dans un premier temps, il faut finir budgétairement l'année 2026, pouvoir voter un budget supplémentaire en toute sincérité et enfin préparer un difficile budget 2027.
Merci Elisabeth. Les élus du Congrès toujours réunis en commission plénière et qui auditionnent en cette fin d'après-midi les responsables d'Air Calin, dont son PDG Georges Séléphène. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À propos d'Air Calin, les choses s'améliorent dans le ciel de la compagnie. La nuit dernière, le vol SB500 à destination de Paris via Bangkok a décollé normalement de l'aéroport de la Tontoutaï. Il s'est posé un peu après 11h30 à Bangkok. Il a redécollé de Bangkok en direction de Paris un peu après 15h. Il se trouve actuellement au-dessus de l'Inde. Le second A330neo qui était en réparation à la suite d'un problème sur une pale d'un de ses réacteurs a été dépanné la nuit dernière. Il va donc pouvoir reprendre du service dans les heures qui viennent. Air Calin qui indique par ailleurs qu'un appareil affrété assurera à partir de la fin de semaine des rotations supplémentaires afin de ramener les passagers en attente n'ayant pas encore été reroutés. Grâce à ce dispositif, indique la compagnie associée aux solutions de rerouting proposées, tous les passagers en attente devraient pouvoir atteindre leur destination finale au plus tard à la fin de cette semaine. Enfin, dans un communiqué qui a été publié dans la journée, Air Calin indique que les vols SB340 et 341 Nouméa Wallis et retour sont décalés de 12 heures. Le vol Nouméa Wallis partira finalement demain, le 20 août à 23h. Le vol retour est attendu samedi matin à 6h20 à la Tontouta. Une séquence diplomatique régionale intense. Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France pour le Pacifique, rentre d'Apia au Samoa, où elle a assisté au conseil exécutif du PROE, le programme régional océanien pour l'environnement. Et à la fin du mois, elle assistera au 55e sommet du Forum des îles du Pacifique à Palau, où la délégation française sera conduite par la ministre des Partenariats économiques de la Francophonie et des Français de l'étranger, Éléonore Carroix. Jean-François Bodin.
C'est Wallis et Futuna qui vient de prendre la présidence tournante du PROE. La semaine dernière, le conseil exécutif s'est penché sur la préparation de la COP31. C'est la Turquie qui l'accueillera au mois de novembre prochain et non l'Australie qui avait pourtant posé sa candidature. L'Australie entend bien tout de même mener la délégation du Pacifique lors de ce grand rassemblement mondial, mais cela ne se fait pas sans tension, a constaté Véronique Roger-Lacan.
Ce que j'ai retenu, c'est une tension entre les États qui fonctionnent avec les énergies fossiles et ceux qui voudraient interdire totalement les énergies fossiles et intervenir de manière unifiée pour tous les États du Pacifique à la COP31 en faveur d'une baisse des énergies fossiles dans les mix énergétiques autorisés.
Est-ce que la France a une position sur ce point-là ?
Nous, avec le nucléaire, on est assez à l'aise sur ces sujets-là et donc on est assez proche des petits États insulaires du Pacifique là-dessus.
Des tensions. Il en existe aussi au sein du Forum des îles du Pacifique, dont le 55e sommet s'ouvre le 30 août à Palau. L'une de ces tensions porte sur la reconnaissance de Taïwan par les petits États insulaires, explique Véronique Roger-Lacan, un sujet qui menace l'unité du FIP.
Il y avait 6 États en 2021 qui reconnaissaient Taïwan, Kiribati, Tuvalu, Nauru, les îles Salomon, les îles Marshall et la République des Palaos. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3. Qui sont les îles Marshall, Palaos et Tuvalu. Parce que la République populaire de Chine multiplie les démarches pour faire de sorte que les reconnaissances de Taïwan changent. Et ces 3 États-là qui reconnaissent encore Taïwan sont très sérieux sur leur attachement à Taïwan et très fermes sur le fait qu'ils ne changeront jamais de politique. Et quand la Chine demande à ce que Taïwan ne soit plus invité au Forum des îles du Pacifique, alors ces trois États disent « nous, on ne vient pas ». À ce moment-là, la nervosité monte parce que ça fait éclater l'unité du Forum des îles du Pacifique. Et là, il y a d'autres États insulaires qui disent « nous, seuls, on ne pèse rien dans le concert des nations. En revanche, quand on est ensemble, on pèse plus. Donc, il faut vraiment absolument maintenir l'unité. »
La Chine reste évidemment très présente encore dans la région et multiplie, comme l'Australie d'ailleurs, les partenariats bilatéraux avec les États du Pacifique. Mais certains d'entre eux refusent d'avoir à choisir ou d'être pris en tenaille. C'est la raison pour laquelle le FIP doit se pencher sur l'agrément et la mise en place d'une architecture de sécurité. Elle permettrait une meilleure coordination entre les forces armées ou les forces de sécurité intérieure de ces États. Il sera aussi question de la Nouvelle-Calédonie lors de ce sommet du FIP. Le sujet, vous le savez, est à l'ordre du jour permanent de ce forum. Une mission du FIP, son président, son vice-président et son secrétaire général étaient venus en Nouvelle-Calédonie après les émeutes de 2024, ce qui lui avait permis de mieux apprécier la situation.
Le Forum des îles du Pacifique a bien compris en venant en Nouvelle-Calédonie en 2024. D'abord qu'il se passe des choses en Nouvelle-Calédonie au plan économique et au plan de la société qui sont loin devant ce que peuvent proposer les États insulaires. Donc ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'exemples à prendre sur ce qui se fait en Nouvelle-Calédonie. Et deux, qu'il y a pas mal de choses qui sont proposées pour la population calédonienne. Et que s'il y a des enjeux d'indépendantisme et tout ça, ce sont des positions politiques mais pas forcément des positions sociétales, de discrimination, etc. C'est l'évaluation qui est faite par le Forum des îles du Pacifique. Et donc, ils invitent les parties à négocier entre elles et avec l'aide de l'État pour trouver une solution qui leur convienne à tous.
Le 55e sommet du Forum des îles du Pacifique s'ouvre donc le 30 août à Palau et doit durer 6 jours.
Merci Jean-François. 18h02, on va marquer une première pause dans ce journal dans un instant. La suite de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Info Soir, Lionel Sabot.
Et à Païta, une enquête est en cours après l'agression d'un homme samedi dernier. Selon les premiers éléments, la victime soupçonnée de vol aurait fait les frais d'une expédition punitive, Michael Juneski.
En effet, les investigations sont en cours. On sait qu'un groupe de personnes armées de sabres aurait décidé de se faire justice elle-même en appréhendant ce jeune, soupçonné donc de cambriolage dans le secteur d'Ondémia. La gendarmerie s'est saisie de l'enquête. En attendant que toute la lumière soit faite sur les faits, les coutumiers de Païta ont lancé un appel à l'apaisement et à ne pas laisser des tensions s'installer entre les communautés wallisiennes et mélanésiennes. Franck Païta est le représentant de la grande chefferie de Païta.
Certes, le jeune, il a fait une bêtise, quoi. On ne prend pas part de ce qu'il a fait. Il va être puni pour ce qu'il a fait. Mais c'est de la façon comment que ça s'est passé. Les jeunes qui sont arrivés, là, les 5 personnes qui sont venues l'interpeller, là, bien armées, des sabres bâtis et des couteaux, m'ont dit que par rapport à ce qui s'est passé, il y a une justice pour ça. Certes, le jeune, il a fait une bêtise, mais il n'a pas à faire justice. Au nom d'un grand chefferie de Païta, avec les 4 tribus qui sont autour, les coutumiers, on dit que faut pas que ça se reproduise, quoi. On peut s'entendre, nous, entre nous, les Océaniens, pour se retrouver et discuter ensemble. Je vais me répéter pour dire que moi, je ne prends pas parti de ce que les jeunes ont fait. C'est la façon comment ça s'est passé. On a calmé un peu les jeunes de notre côté. Il faut qu'on se retrouve pour discuter par rapport à ce qui s'est passé.
La victime présumée de cette agression est bien connue de la justice, mais si les faits sont avérés, les auteurs de cette expédition punitive supposée encourent à leur tour des sanctions. L'enquête se poursuit. La mairie de Païta a indiqué suivre de près cette affaire, mais ne fera pas de commentaires sur une procédure en cours pour laisser la justice faire son travail.
Vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu demain à 7h30, c'est Ludovic Boulal, le président du Sénat coutumier, qui sera notre invité du matin à une semaine de la tenue du congrès du Pays Canac, où sera élu son successeur. Il viendra notamment évoquer le bilan de son mandat. Et puis les protections de marché font toujours débat. L'association Que Choisir Ensemble, ex-UFC Que Choisir, a alerté sur les nouvelles demandes de protection de marché, ce qui a fait réagir la FINC et qui soutient les protections de marché. Avantages, inconvénients, le sujet sera en débat demain dans les Jeudis de l'économie. Radio Rythme Bleu à retrouver dès la fin du journal de 11h30. Jean-François Bedin recevra Philippe Lassos de Que Choisir Ensemble et le président de la FINC, Xavier Benoît. La gastronomie sera à l'honneur demain sur la place des Cocotiers à Nouméa, à l'occasion du Jeudi du Centre-Ville, une édition placée sous le signe de la gourmandise, où plus de 80 exposants seront réunis de 9h à 19h. Les disciples d'Escoffier proposeront notamment un show cooking à 17h, retransmis sur écran géant. Et la nouveauté de cette édition 2026 sera le concours Hot Ones, préparé par le chef Fabrice Chassin. Les précisions de Bruno Aurelio, gérant de Pacific Fair, prestataire de l'événement.
On finira à 18h avec un concours de sauces piquantes qui reprend un peu l'émission Hot Ones. Donc pour ceux qui connaissent l'émission, donc on a 10 sauces avec du piment sur ce qu'on appelle l'échelle de Scoville. L'échelle de Scoville, donc, c'est ce qui mesure la puissance du piment, donc du plus faible au plus puissant. Et donc on va tremper l'équivalent d'un nugget de poulet dans cette sauce un petit peu. Et donc les candidats vont essayer d'aller jusqu'à la 10e sauce la plus puissante du monde pour tenter de gagner un bon cadeau dans un restaurant de la place. Donc pour les plus courageux, on aura besoin de 8 candidats à 18h pour savoir qui est le plus résistant au piment. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment riche et varié, on a un petit peu de tout pour découvrir et évidemment s'amuser tous ensemble.
Le public pourra s'inscrire directement sur place demain pour relever ce défi. Le Jeudi du Centre-Ville spécial gastronomie se déroulera, je vous le rappelle, demain de 9h à 19h sur la place des Cocotiers. Et puis coup de projecteur sur une initiative qui a vu le jour en Calédonie pour soutenir les producteurs de fruits et légumes. La Fédération de la faune et de la chasse vient en aide aux agriculteurs pour faire face aux dégâts provoqués par les poux sultanes et les bubules. Michael Juneski.
L'impact est très sérieux et les pertes non négligeables pour les exploitations face à ces espèces envahissantes. Un dispositif a été mis en place. Des opérations de chasse sont menées sur demande des exploitants pour réduire drastiquement et efficacement les populations en cause et ainsi éviter de nombreuses pertes de fruits et légumes dans les champs. Pascal Faure est le directeur de la Fédération de la chasse en Nouvelle-Calédonie.
On a porté depuis quelques années, bientôt 4 ans maintenant, un soin particulier sur les impacts que font les espèces impactantes sur les productions agricoles dans le sud, dans le nord, tels que le bulbule dans le sud. Tout le monde connaît bien ce petit oiseau, mais qui fait de très très gros dégâts sur les productions agricoles. Et également les poules sultanes, qui elles ravagent aussi les cultures dans tout le territoire. C'est un outil qui mériterait d'être connu, d'être soutenu aussi. On se rend compte qu'il y a des personnes sur le territoire, des producteurs, qui ne connaissent pas cette chose-là et qui déplorent des dégâts sans trouver de solution de leur côté.
Cette solution a fait ses preuves et c'est un atout pour les agriculteurs. Franck Souris-Lavergne est exploitant et élu à la Chambre d'agriculture et de la pêche.
Le bulbule est un ravageur assez récent en Nouvelle-Calédonie qui est maintenant très très implanté, surtout sur le sud de la Grande Terre. La poule sultane, on observe chez les agriculteurs une augmentation des dégâts sur les cultures maraîchères. On est très content de pouvoir avoir les services de la Fédération de la faune et de la chasse qui peut faire des interventions de régulation. Sans ce genre de dispositif-là, les agriculteurs peuvent être parfois démunis. C'est un moyen de lutte ciblé, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les interventions de la Fédération de la faune et de la chasse vont toucher directement le ravageur concerné. Moi-même, sur mon exploitation, j'ai eu à subir les dégâts des poules sultanes qui augmentaient de saison en saison. Je croyais pouvoir maîtriser la chose moi-même, mais au bout d'un moment, il a fallu que je me rende à l'évidence. chasse, les dégâts continuaient d'augmenter. Et en faisant intervenir la Fédération de la faune et de la chasse, j'ai pu vraiment observer un résultat. Et aujourd'hui, je retrouve la rentabilité puisque les dégâts ont fortement diminué suite à leur intervention.
C'est la mutualisation des compétences qui a permis de mettre en place cet outil au service des agriculteurs. On retrouve Pascal Faure, directeur de la Fédération de la faune et de la chasse.
Tout part déjà de l'agence rurale et de la chambre d'agriculture. Alors la chambre d'agriculture a son rôle et un rôle très important parce qu'elle a su créer un réseau entre les producteurs agricoles et la fédération. Et donc la chambre d'agriculture nous appelle, nous donne les coordonnées d'un producteur agricole et nous prenons contact avec cette personne pour voir quels sont les types de dégâts, quel type d'action on va mettre en place et pour essayer de trouver une solution ensemble. Et ensuite, bien sûr, l'agence rurale qui est en soutien de ces producteurs agricoles qui vont aider les producteurs financièrement dans cette démarche en proposant un remboursement de 50% des factures qui sont faites suite aux interventions des techniciens sur le terrain. C'est la réduction autant que faire se peut. On ne va pas éliminer évidemment les animaux qui sont présents depuis plusieurs centaines voire milliers d'années sur place. En revanche, on va réduire leur impact et les rendre acceptables pour le producteur agricole. Ça permettra au producteur de remonter dans son taux de production, de se refaire de la trésorerie et de recommencer à travailler.
La Fédération de la faune et de la chasse qui fait valoir aujourd'hui ses nombreuses compétences, reconnues également hors du territoire pour des actions environnementales et économiques, avec des techniciens qui ont été appelés pour des missions d'aide à Wallis et Futuna ou encore à La Réunion.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Voici notre question du jour. Approuvez-vous le principe « tu casses, tu répares » mis en œuvre à Dimbéa pour effacer les tags ou réparer les dégradations de l'espace public? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 58% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le Conseil constitutionnel a eu raison de rejeter l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans en estimant que le texte porte atteinte à la liberté d'expression. Ils sont à l'inverse 42% à penser qu'il a eu tort. 18h12, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, sport et météo.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
EEC Smart, l'appli qui simplifie la vie. Vous suivez votre consommation en direct. Vous voyez vos factures, les coupures, les conseils, les incidents. Vous pouvez aussi payer en ligne et transmettre vos index solaires. Tous les services sur le site EEC.
Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive avec d'abord du golf et le deuxième tour du South Pacific Junior Open. Depuis hier, c'est une quarantaine de joueuses et de joueurs qui disputent ce tournoi sur le parcours de Tina. Deuxième journée de compétition et du changement au leaderboard. Chez les messieurs, c'est Jules Guépy qui a pris les commandes du tournoi après avoir rendu une carte de 67 ce matin. 5 coups sous le par, ce qui est une excellente performance pour Jules Guépy qui a un score total de plus 1, devance de 3 coups Auguste Lardin et de 6 coups Hugo Koch. Le Guadeloupéen Maxime Gelabert qui était en tête du classement à l'entame de cette deuxième journée en rendant une carte de 80 à 8 coups au-dessus du par lâché. Notez que Jules Guépy ne sera pas au départ demain puisqu'il quittera le territoire dans les prochaines heures. Et puis chez les dames, l'Australienne Anna Thomas est toujours en tête du classement. Elle devance de 9 coups la métropolitaine Tiffany Kyung-Soo et de 20 coups la calédonienne Lola Alibo. Le triathlon du lac se déroulera bien le week-end prochain. L'événement avait dû être reporté le 19 juillet dernier en raison des intempéries. Les organisateurs espèrent à nouveau mobiliser les amateurs de sport en pleine nature dimanche prochain. Michael Gineski.
Les fortes pluies et les vigilances avaient contraint la Estrée Mondor à repousser la date de cette épreuve. Les bénévoles espèrent que l'engouement sera de nouveau au rendez-vous pour un événement sportif qui s'adresse autant aux plus aguerris qu'aux curieux et fans d'aventure. 3 formats seront proposés, dont un format M avec 1500 mètres de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied qui peut être fait en solo ou par équipe. Il y a aussi des formats plus courts dans un cadre idéal dans le Grand Sud et au lac de Yatté. Hélène Legrain, la présidente de la Estrie Mondor.
On présente toujours les mêmes épreuves, c'est-à-dire un triathlon XS, ouvert à partir de 12 ans d'ailleurs, pour nos plus jeunes triathlètes calédoniens. Un format S également et un format M, donc une grande diversité de formats qui permettent vraiment à tout le monde de s'inscrire sur cette course. C'est vrai qu'on est dans un cadre qui est magnifique, qui allie la nature et une très belle route hein, pour les cyclistes. Le revêtement, il est très adapté. On nage en eau douce et ensuite on court le long du lac et c'est très très joli. On sera face à trois couleurs, la couleur du bleu de l'eau, le vert des arbres et la terre rouge emblématique du sud. C'est vraiment un cadre exceptionnel. C'est un des rares triathlons qui a lieu en lac.
Il y aura également des gros lots à gagner pour tous les participants. Par tirage au sort, les inscriptions pour le triathlon du lac Nouméa pas cher sont encore possibles jusqu'à demain soir minuit.
Merci Mickaël, on termine ce journal avec la météo.
Socapor vous présente la météo. Socapor, le spécialiste sol et mur depuis 1971. Showroom sol et bain à Ducos. Magasin peinture à Ducos et Enguea. Socapor, deux spécialités, une même exigence depuis plus de 50 ans.
Les couleurs du ciel, c'est avec vous. Ce soir, Ismaël, et toujours une vigilance jaune sur certaines communes de la côte ouest.
Et oui, vigilance jaune, vent violent de Boulou Paris à Koumac aujourd'hui. Pour analyser, de sud-est pouvant dépasser localement les 25 nœuds avec des rafales autour de 35 nœuds, soit l'équivalent de 65 km/h, c'est 10 communes sous le coup de cette vigilance jaune vent violent. Et ce soir, sur la façade est et au Loyauté, des bancs de nuages circulent dans l'Alizée et peuvent donner quelques averses isolées. Ailleurs, le temps reste sec et le ciel est généralement peu nuageux. Le vent s'orientera à l'est-sud-est entre 20 et 25 nœuds avec des rafales et en fin de nuit, il mollit entre 15 et 20 nœuds sur la pointe sud et entre 10 et 15 nœuds sur la façade ouest. Les températures de la nuit, elles varient de 13 à 19 degrés et baissent localement entre 8 et 10 degrés dans l'intérieur des terres.
Et oui, degrés dans l'intérieur des terres. Demain matin, le soleil est souvent bien pressant sur l'ouest et sur le nord.
Mais ailleurs, le ciel sera passagèrement nuageux et de rares averses se produiront, notamment sur l'extrême sud et marée. Du nord-est à Bélep, l'Alizé d'est-sud-est continuera de souffler entre 20 et 25 nœuds avec des rafales entre 30 et 35 nœuds. Ailleurs, en revanche, il mollira entre 15 et 20 nœuds, localement de 10 à 15 nœuds sur le nord-ouest.
Et pour demain après-midi, début d'une petite dégradation.
Oui, puisque les nuages deviendront plus présents sur l'extrême sud et au Loyauté, où les précipitations deviendront plus fréquentes mais resteront faibles. Ailleurs, nuages éclaircis se partageront le ciel et quelques gouttes seront possibles sur le relief, puis sur l'ouest par débordement. L'Alizé d'est-sud-est soufflera quant à lui entre 15 et 20 nœuds en général. Il dépassera localement les 20 nœuds, notamment sur l'extrême nord, avec encore des rafales autour de 30 nœuds. Et on termine, comme toujours, avec les températures qui seront stables et comprises entre 22 et 25 degrés.
Clair, net et précis. Merci Ismaël pour la météo. C'est la fin de ce journal.